Il est maintenant facile de comprendre toute la valeur de ce mot. La maison à M. Grandet, cette maison pâle, froide, silencieuse, située en haut de la ville et abritée par les ruines des remparts. Les deux piliers et la voûte formant la baie de la porte avaient été, comme la maison, construits en tuffeau. Pierre blanche particulière au littoral de la Loire, et si molle que sa durée moyenne est à peine de 200 ans. Les trous inégaux et nombreux que les intempéries du climat y avaient bizarrement pratiqués donnaient au cintre et aux jambages de la baie l'apparence des pierres vermiculées de l'architecture française et quelques ressemblances avec le porche d'une geôle. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierres dures sculptées, représentant les quatre saisons, figure déjà rongée et toute noire. Ce bas-relief était surmonté d'une plinthe saillante sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations dues au hasard, des pariétaires jaunes, des liserons, des convolvulus, du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. La porte en chêne massive, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par le système de ses boulons qui figuraient des dessins symétriques. Par la petite grille destinée à reconnaître les amis au temps des guerres civiles, les curieux pouvaient apercevoir, au fond d'une voûte obscure et verdâtre, quelques marches dégradées par lesquelles on montait dans un jardin que bornaient pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont l'entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissaient l'importance d'une salle dans les petites villes de l'Anjou, de la Touraine et du Berry. La salle est à la fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à manger. Elle est le théâtre de la vie domestique, le foyer commun. Là, le coiffeur du quartier venait couper deux fois l'an les cheveux de M. Grandet. Là entraient les fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon meunier. Cette pièce, dont les deux croisées donnaient sur la rue, était planchéiée, des panneaux gris à moulures antiques. La boisait de haut en bas, son plafond se composait de poutres apparentes, également peintes en gris, dont les entre-deux étaient remplis de blanc en bourre qui avait jauni. Les sièges de forme antique étaient garnis en tapisseries représentant les fables de La Fontaine. Mais il fallait le savoir pour en reconnaître les sujets. Tant les couleurs passées et les figures criblées de reprises se voyaient difficilement. Aux quatre angles de cette salle se trouvaient des encoignures, espèces de buffets terminés par de crasseuses étagères. Une vieille table à jouer en marqueterie, dont le dessus faisait échiquier, était placée dans le tableau qui séparait les deux fenêtres. Sur la paroi opposée de la cheminée, deux portraits au pastel étaient censés représenter l'aïeul de Madame Grandet, le vieux monsieur de la Bertelière en lieutenant des gardes françaises et défunte Madame Gentillet en bergère. Aux deux fenêtres étaient drapés des rideaux en gros de tour, rouges, relevés par des cordons de soie à glands d'église. Cette luxueuse décoration, si peu en harmonie avec les habitudes de Grandet, avait été comprise dans l'achat de la maison ainsi que le trumeau, le cartel, le meuble en tapisserie et les encoignures en bois de rose. Dans la croisée, la plus rapprochée de la porte, se trouvait une chaise de paille dont les pieds étaient montés sur des patins afin d'élever Madame Grandet à une hauteur qui lui permit de voir les passants. Une travailleuse en bois de merisier d'étain remplissait l'embrasure et le petit fauteuil d'Eugénie Grandet était placé tout auprès. Depuis 15 ans, toutes les journées de la mère et de la fille s'étaient paisiblement écoulées à cette place, dans un travail constant, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Le premier de ce dernier mois, elles pouvaient prendre leur station d'hiver à la cheminée. Ce jour-là, seulement Grandet permettait qu'on allumât du feu dans la salle. Et il le faisait éteindre au 31 mars sans avoir égard ni au premier froid du printemps, ni à ceux de l'automne. Une chaufferette entretenue avec la braise provenant du feu de la cuisine que la grande Nanon leur réservait en usant d'adresse, aidait Madame et Mademoiselle Grandet à passer les matinées ou les soirées les plus fraîches des mois d'avril et d'octobre. La mère et la fille entretenaient tout le linge de la maison et employaient si consciencieusement leur journée à ce véritable labeur d'ouvrière que si Eugénie voulait broder une collerette à sa mère, elle était forcée de prendre une de ses heures de sommeil en trompant son père pour avoir de la lumière. Depuis longtemps, l'avare distribuait la chandelle à sa fille et à la grande Nanon, de même qu'il distribuait dès le matin le pain et les denrées nécessaires à la consommation journalière. La grande Nanon était peut-être la seule créature humaine capable d'accepter le despotisme de son maître. Toute la ville l'enviait à monsieur et à madame Grandet. La grande Nanon, ainsi nommée à cause de sa taille haute de 5 pieds 8 pouces, appartenait à Grandet depuis 35 ans. Quoiqu'elle n'eût que 60 livres de gage, elle passait pour une des plus riches servantes de Saumur. Ces 60 livres accumulés depuis 35 ans lui avaient permis de placer récemment 4000 livres en viager chez maître Cruchot. Ce résultat des longues et persistantes économies de la grande Nanon parut gigantesque. Chaque servante, voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux jours, était jalouse d'elle sans penser au dur servage par lequel il avait été acquis. À l'âge de 22 ans, la pauvre fille n'avait pu se placer chez personne. Tant sa figure semblait repoussante, et certes ce sentiment était bien injuste. Sa figure eût été fort admirée sur les épaules d'un grenadier de la garde, mais en tout, il faut, dit-on, l'à propos. Forcée de quitter une ferme incendiée où elle gardait les vaches, elle vint à Saumur où elle chercha du service, animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père Grandet pensait alors se marier et voulait déjà monter son ménage. Il avisa cette fille rebutée de porte en porte. Juge de la force corporelle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti qu'on pouvait tirer d'une créature femelle, taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de 60 ans sur ses racines, forte des hanches, carrée du dos, ayant des mains de charretier et une probité vigoureuse comme l'était son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages et l'employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi accueillie, la grande Nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier qui d'ailleurs l'exploita féodalement. Nanon faisait tout. Elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, le rapportait sur ses épaules, elle se levait au jour, se couchait tard, faisait à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halboteurs, défendait comme un chien fidèle le bien de son maître. Enfin, pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse année de 1811, dont la récolte coûta des peines inouïes après 20 ans de service, Grandet résolut de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent qu'elle reçut jamais de lui. Quoiqu'il lui abandonnât ses vieux souliers, elle pouvait les mettre. Il est impossible de considérer le profit trimestriel des souliers de Grandet comme un cadeau tant ils étaient usés. La nécessité rendit cette pauvre fille si avare que Grandet avait fini par l'aimer comme on aime un chien. Et Nanon s'était laissé mettre au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient plus. Si Grandet coupait le pain avec un peu trop de parcimonie, elle ne s'en plaignait pas. Elle participait gaiement au profit hygiénique que procurait le régime sévère de la maison, où jamais personne n'était malade. Puis la Nanon faisait partie de la famille. Elle riait quand riait Grandet, s'attristait, gelait, se chauffait, travaillait avec lui. Combien de douces compensations dans cette égalité! Jamais le maître n'avait reproché à la servante ni la leberge ou la pêche de vigne, ni les prunes ou les brugnons mangés sous l'arbre. « Allons, régale-toi, Nanon !» lui disait-il dans les années où les branches pliaient sous les fruits que les fermiers étaient obligés de donner aux cochons. Pour une fille des champs qui, dans sa jeunesse, n'avait récolté que de mauvais traitements, pour une pauvresse recueillie par charité, le rire équivoque du père Grandet était un vrai rayon de soleil. D'ailleurs, le cœur simple, La tête étroite de Nanon ne pouvait contenir qu'un sentiment et une idée. Depuis 35 ans, elle se voyait toujours arrivant devant le chantier du père Grandet, pieds nus, en haillons, et entendait toujours le tonnelier lui disant « Que voulez-vous, ma mignonne ?» Et sa reconnaissance était toujours jeune. Quelquefois Grandet, songeant que cette pauvre créature n'avait jamais entendu le moindre mot flatteur, qu'elle ignorait tous les sentiments doux que la femme inspire, et pouvait comparaître un jour devant Dieu plus chaste que ne l'était la Vierge Marie elle-même, Grandet, saisi de pitié, disait en la regardant « Cette pauvre Nanon !» Son exclamation était toujours suivie d'un regard indéfinissable que lui jetait la vieille servante. Ce mot, dit de temps à autre, formait depuis longtemps une chaîne d'amitié non interrompue et à laquelle chaque exclamation ajoutait un chaînon. Cette pitié placée au cœur de Grandet et prise tout en gré par la vieille fille avait je ne sais quoi d'horrible. Cette atroce pitié d'avare qui réveillait 1000 plaisirs au cœur du vieux tonnelier était pour Nanon sa somme de bonheur. Qui ne dira pas aussi « Pauvre Nanon, Dieu reconnaîtra ses anges aux inflexions de leur voix et à leurs mystérieux regrets. » Il y avait dans Saumur une grande quantité de ménages où les domestiques étaient mieux traités, mais où les maîtres n'en recevaient néanmoins aucun contentement. De là cette autre phrase « Qu'est-ce que les Grandets font donc à leur grande Nanon pour qu'elle leur soit si attachée ? Elle passerait dans le feu pour eux !» Sa cuisine, dont les fenêtres grillées donnaient sur la cour, était toujours propre, nette, froide, véritable cuisine d'avare où rien ne devait se perdre. Quand Nanon avait lavé sa vaisselle, serré les restes du dîner, éteint son feu, elle quittait sa cuisine, séparée de la salle par un couloir, et venait filer du chanvre auprès de ses maîtres. Une seule chandelle suffisait à la famille pour la soirée. La servante couchait au fond de ce couloir dans un bouge éclairé par un jour de souffrance. Elle devait, comme un dogue chargé de la police, ne dormir que d'une oreille et se reposer en veillant.